Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Myriam sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Myriam et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 30 ans le 27 mai.
Oui.
Et je vous appelle depuis la Corse.
Depuis la Corse. Alors, nous avons deux points communs, ma chère Myriam. Le premier, c'est que vous êtes Gémeaux.
Ah.
Non ?
Tout à fait, oui, oui.
Tout à fait. Et le deuxième, vous êtes Corse ou vous êtes native de la Corse ou...
Non, je suis Suisse. J'ai découvert la Corse il y a quelques années lors de vacances. Et
oui.
C'était le coup de cœur.
D'accord.
Et j'y suis retournée de nombreuses fois depuis. Et un jour, j'ai sauté le pas, il y a 2 ans, et j'ai déménagé à Ajaccio.
D'accord. Alors bon, je pensais que vous étiez corse, donc je suis à moitié corse par mon papa. Donc voilà. Et j'embrasse tous les Corses qui nous écoutent, puisqu'ils sont nombreuses et nombreux à nous écouter, comme partout en France d'ailleurs. Mais bien évidemment, nous sommes très écoutés en Corse. Nous avons souvent des personnes qui nous appellent de là-bas. Comme vous ce soir, Myriam, vous avez publié un livre en 2019, Itinéraire d'une survivante, aux éditions Favre. Survivante. Alors, dites-moi tout.
Alors, j'ai une enfance extrêmement compliquée dans une famille où je me sentais incomprise et totalement en décalage. Enfin, c'était pour moi clairement de la maltraitance par rapport à ce que je vivais avec mes parents. Je ne me sentais pas respectée en tant qu'être humain. Et je faisais face en parallèle à une maladie grave qui atteignait mon corps. Et mes parents pensaient que j'étais possédée, en fait. Et qu'il fallait résoudre ma maladie par un exorcisme.
Possédée, parce que quelle était cette maladie, Myriam ?
Donc j'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une maladie qui touche le collagène. Le collagène, c'est la protéine qui donne la résistance dans les organes du corps.
Oui.
Et chez moi, ça se traduit par des symptômes, on va dire, entre guillemets, classiques de la maladie, donc une hyperlaxité articulaire, une fragilité cutanée, mais j'avais également d'autres symptômes qui sont un peu moins fréquents, mais plutôt graves, avec notamment une malformation cardiaque. Et également d'autres atteintes, par exemple digestives.
D'accord.
Et notamment la malformation cardiaque a nécessité une opération à cœur ouvert suivie d'une opération en urgence.
D'accord.
En 2006.
Et vos parents vous croient possédés. C'est tout de même incroyable. Ils ne vous montrent pas un médecin, ils ne font rien de tout ça.
Donc, en fait, ils savaient depuis longtemps que j'avais cette... ils suspectaient, on va dire, depuis longtemps que j'avais cette maladie, étant donné que mon père est médecin, qu'il était lui-même atteint de la maladie.
Mm-hmm.
Mais je n'avais jamais été consultée par rapport à cela. Pour eux, ça se résumait à une sorte de fragilité un peu plus marquée par rapport à la normalité, entre guillemets. Et c'est le jour où j'ai commencé à énormément boiter et qu'il fallait, en fait, me faire des semelles orthopédiques. Pour obtenir le remboursement de ces semelles orthopédiques, il fallait que le diagnostic soit posé par un médecin spécialisé. Et c'est dans cette consultation au CHU qu'on s'est rendu compte que la maladie était beaucoup plus grave que ce qui était prévu. Mais suite à cela, mes parents ont fait un énorme déni. Donc bien sûr, je me rendais moi-même par la suite aux consultations pour continuer le suivi. Mais eux appelaient les parents de mes amis pour leur annoncer que j'étais folle, qu'il ne fallait pas me croire, que j'étais dangereuse. Il demandait au prêtre qui voulait bien m'exorciser. Il me faisait voir des psychologues pour trouver de quelle maladie je souffrais. Il voulait bien croire que j'avais n'importe quelle maladie mentale, mais pas pour eux, cette maladie physique était entre guillemets présente dans une forme frustre où effectivement j'avais des bleus. Mais par exemple, mon opération du cœur pour eux était une demande de ma part envers les médecins. Pour un manque d'attention, enfin pour une demande d'attention en fait.
Mmh. Ce qui faisait de vos parents d'emblée une famille maltraitante, on est d'accord ?
Oui, alors malheureusement ça ne s'arrêtait de loin pas à ce cadre-là, mais c'est vrai que quand je vivais chez eux, je ne m'en rendais pas forcément compte. Par la suite, quand j'ai pu sortir de ce cadre, j'ai vraiment pris conscience qu'effectivement c'était de la maltraitance. Et disons que j'ai été brimée dans ma personnalité humaine et dans tous les points de ma vie. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être presque emprisonnée étant donné que toute ma vie était régie pour répondre à leurs besoins en fait, et à leurs désirs, que ce soit mes activités, mes amitiés, mon temps libre.
Vous êtes dans un milieu aisé en plus, hein. Je crois savoir que vous
oui.
êtes issu d'un milieu plutôt bourgeois en fait, avec un père médecin.
Oui, tout à fait. Donc l'aspect financier n'était vraiment pas problématique dans la famille, mais au contraire, il fallait toujours montrer qu'on était parfait et qu'on venait d'une bonne éducation, donc on ne pouvait pas se mélanger entre guillemets au commun des mortels. Il fallait qu'on montre qu'on venait, nous, d'une bonne famille, contrairement aux autres personnes qui étaient presque perçues en dessous. Et bien sûr, j'étais tout à fait contre ce système de règles et cette perte de contrôle que surtout ma mère avait ressenti chez moi, amenée à des punitions qui étaient démesurées, comme des enfermements, des privations de nourriture, des privations même par la suite de rentrer chez moi pour dormir. Donc je devais trouver le soir lequel de mes camarades de classe voulait bien m'héberger pour la nuit.
Mmh. Il fallait que vous soyez parfait, hein, que vous jouiez tous un instrument de musique. Ce qui, vos parents, c'était le paraître, hein, qui les intéressait en fait.
Oui, c'était le paraître et le paraître, on va dire, par rapport à la société. Mais ils sont très religieux. C'était également le paraître par rapport à Dieu. Donc, on avait un nombre incalculable de prières à faire par jour et nos dimanches étaient consacrés à Dieu avec des longs chapelets, des messes, des réunions avec d'autres familles catholiques. On allait voir des prêtres, on faisait des cons religieux, mais du moment que j'avais des amis, par exemple, qui n'étaient pas catholiques ou qu'on regardait un film ou qu'on écoutait une musique qui n'était pas de la musique d'église ou un film d'église, c'était considéré comme satanique en fait. Et notamment
considéré comme satanique.
Par exemple, pour eux, Harry Potter est satanique.
D'accord.
Voilà.
D'où sortent-ils que Harry Potter est satanique? Parce qu'il y a beaucoup de magie dedans, c'est ça?
Oui, parce que c'est pas la parole de Dieu.
Parce que ça n'est pas la parole de Dieu. D'accord.
Oui.
C'est une manière de voir les choses quand même.
Ouais. Enfin, et par exemple, si on n'était pas premier en classe, on était puni parce que, en fait, soit on est parfait, soit on est nul. C'est ça. Voilà, c'était ça. Et ma mère, elle me disait souvent, t'es que de la vermine. Et la vermine, soit ça se rend utile, soit ça s'élimine.
Alors, qu'appelait-elle la vermine ? Qu'appelait-elle la vermine ?
Pour moi, la vermine, c'est moi, c'est le bas peuple, c'est les gens qui parfois trébuchent. Et en fait, par rapport à ma maladie, je sortais totalement en fait, de ce schéma de perfection. Je détruisais tous ces idéaux qu'elles étaient projetées sur moi et elles me détestaient pour ça.
Elle vous détestait pour ça, d'accord.
Oui, je pense par rapport également... Enfin, je ne sais pas si elles me détestaient, mais je pense qu'en tout cas, elles étaient perdues par rapport à ça parce que ça ne correspondait pas à ce qu'elles s'étaient imaginées. Je verrais plus aujourd'hui... Avant, je le percevais comme de la haine, mais je pense qu'aujourd'hui, je le verrais plus vraiment comme peut-être une pathologie. Mais oui, en fait, si elle perdait le contrôle sur moi, elle devenait méchante.
Méchante, donc elle faisait quoi quand elle était méchante? Elle vous frappait? Qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle me frappait, elle m'enfermait dans les petites toilettes qui faisaient peut-être 2 mètres carrés. Ou bien ça se traduisait par plein de choses, hein, mais par exemple, elle avait toujours besoin de montrer qu'elle était supérieure à moi, donc il fallait dans la rue que je marche derrière elle, que je lui passe jamais devant. Elle voulait par exemple que dans la sorte de. On vivait dans une maison avec une cour extérieure, dans un quartier familial, on va dire. Même un quartier presque bourgeois. Et il fallait qu'elle souhaitait que je garde les volets fermés parce que si quelqu'un de l'extérieur me voyait dans la maison, il viendrait me violer, en fait.
Il viendrait vous violer, oui. Donc, elle était totalement paranoïaque, votre mère, en fait. Elle était totalement...
Oui.
C'est elle qui était possédée,
elle
en fait.
Elle avait des peurs... Non, elle n'est pas possédée.
Non,
je pense qu'elle a reçu une éducation qui lui a donné des peurs et des angoisses démesurées.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Elle était possédée par des idées préconçues, elle était possédée par une paranoïa, elle était possédée par plein de choses, vous voyez. Et c'est ça qui... de mon point de vue, faisait qu'elle était totalement à côté de la plaque vous concernant. Et en plus de ça, elle ne vous soignait pas. Donc, ils vous ont mis en danger, ces gens-là.
Oui. Ah oui, et je dirais qu'ils m'ont mis surtout en danger au niveau de ma santé mentale, parce qu'aujourd'hui, j'en parle avec peut-être de la clairvoyance,
oui,
en tout cas c'est comme
avec
ça que je
recul,
le perçois.
Avec du recul.
Avec
ouais.
du recul, mais c'est quand je le vivais sur le moment que j'étais enfant, que je n'avais pas, ou adolescente, et que je n'avais pas eu des repères extérieurs et un regard extérieur, je pensais vraiment que c'était moi qui étais possédée, que c'était... Enfin, j'avais en tout cas ce doute que peut-être que j'avais entendu des voix, que les médecins ne m'avaient jamais dit que j'allais devoir être opérée, que j'avais inventé ça. Je ne savais plus reconnaître le vrai du faux. Et là, je pense que plus que le fait de ne pas être soignée physiquement, je me suis perdue mentalement. Enfin, à un moment, je pense que j'aurais vraiment pu me perdre, presque devenir folle, réellement, du fait de cette... perte de repères que j'avais.
C'est-à-dire, en fait, vous avez pu vous perdre à force d'être maltraitée, en fait. C'est ce que vous voulez dire.
Mais je ne savais plus déceler le vrai du faux. Et quand mes parents disaient que j'étais une menteuse, que c'est pas vrai, que j'avais pas de maladie, mais je me disais que peut-être qu'ils avaient raison et que ce que j'avais entendu que les médecins m'avaient dit à l'hôpital était en fait une invention de ma part.
Je suis ta mère. « Je ne suis pas ton amie », disait-elle.
Oui.
C'est très curieux, en fait. Il n'y avait pas d'amour entre vous, en fait, vous pensez ?
Non, je ne pense pas. Je pense que pour elle, c'était une marche à suivre. Un peu.
Vous disiez souvent cette phrase « Tu n'es qu'une vermine et la vermine, soit ça s'élimine, soit ça se rend utile », comme vous me l'avez dit tout à l'heure. En fait... Comment pouvait-elle parler à sa fille comme ça ? D'où ça venait, ça, la vermine ? D'ailleurs, elle sortait ça d'où, à votre avis ?
Alors, on vivait dans la maison en fait, de mes grands-parents maternels. Eux étaient au premier étage, on était au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'eux-mêmes étaient très durs et maltraitants avec ma mère et très intrusifs. Et je pense qu'elle reproduisait un schéma qu'elle avait reçu, en fait, simplement. Et peut-être une pression qu'elle recevait encore de la part de ses parents à elle, étant donné qu'elle ne s'était jamais émancipée de sa propre famille.
Vous dites que le moindre détail de votre vie était régi par votre mère, que vous n'aviez à aucun moment le droit d'être vous-même avec vos propres aspirations et vos propres rêves. Ça devait être très dur quand même, ça.
Oui, mais en fait, je vous le dis honnêtement, et c'est très dur, mais je pense qu'elle a tué 17 années de ma vie. Elle m'a refusé une enfance, elle m'a refusé une adolescence pour que je corresponde à ce qu'elle s'était imaginé que j'allais devenir. C'est-à-dire... Par exemple, je n'étais pas respectée par rapport à mes sensibilités ou mes convictions. Je suis sensible aux animaux. Elle mettait son manteau en fourrure, elle m'obligeait à l'embrasser.
Mmh. Alors que moi, j'avais reçu un... Oui, elle se moquait de votre amour pour les animaux en plus, hein, je crois.
Voilà, alors que moi, par exemple, j'avais reçu un autocollant du refuge animalier que j'avais visité avec les scouts. On voyait un manteau de fourrure et tout le sang qui coulait du manteau de fourrure. Et ça m'avait vraiment choquée.
Oui.
Et elle, donc, elle portait son manteau de fourrure. Elle disait « Maintenant, tu viens m'embrasser. C'est comme ça, c'est pas autrement, sinon t'es puni. »
Mais elle était tout de même un peu sadique, quand même, avec vous, au-delà de ses croyances et de ses paranoïas, en fait.
Je sais. J'ai pas assez de... En fait, j'avais pas assez de connaissances de la vie à ce moment-là pour vraiment déterminer... si c'était du sadisme ou pas. Mais c'était horrible à vivre et c'était une angoisse permanente. En fait, je sais, honnêtement, je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai survécu à mon enfance. J'ai eu plein de fois envie de me suicider, mais je n'ai jamais abandonné. Mais pour moi, tout ce que je vivais n'avait en fait aucun sens. Vraiment,
vous n'avez jamais
sens.
Fait de tentative de suicide, d'ailleurs ?
Non, mais j'y pensais. En fait, j'étais partie dans un fantasme un peu qui m'a sauvée. C'est que je me disais que, de toute façon, si le pire m'arrivait et que j'étais vraiment blessée, ensanglantée ou je ne sais quoi, j'avais rêvé qu'une meute de loups allait venir me sauver et qu'ils allaient m'emmener dans la forêt et s'occuper de moi. Et c'était ce fantasme de petite fille qui me maintenait en vie et qui me disait de ne pas lâcher, en fait.
Alors, ce sont les médecins qui, les premiers, vont s'inquiéter de votre situation, Myriam. Racontez-moi cela.
Ils ont été très étonnés des réactions de mes parents. Notamment, j'étais allée consulter un médecin à Paris, également à Ghent, en Belgique, par rapport à ma maladie. Et mes parents avaient fait en sorte que ni mes médecins ni moi ne puissions récupérer les rapports de ces consultations médicales. Et ça, également, le fait que les parents ne m'accompagnent pas aux consultations, qu'ils disaient toujours « mais c'est pas grave », et qu'ils ne se rendaient pas du tout compte de la réalité, ont mis la puce à l'oreille à mes médecins. Et ils ont commencé à creuser de ce côté-là, oui. Poser des questions, et m'ont envoyé ensuite dans un service spécialisé du CHU qui s'occupe des suspicions de maltraitance, en fait.
C'est là, en fait... Oui, ouais. Pardon, allez-y, je vous laisse continuer, pardon.
Et ensuite, c'est ce service du CHUV qui m'a envoyé à la protection des mineurs. Et par la suite, j'ai pu bénéficier d'une psychothérapie dans un service justement spécialisé dans les maltraitances intrafamiliales.
Mais est-ce que finalement, votre mère et votre père n'ont pas été inquiétés par la justice pour maltraitance?
Alors, la protection des mineurs m'a dit que j'avais cette possibilité-là,
oui,
de porter plainte et d'obtenir en fait des dommages et intérêts pour maltraitance. Et je leur disais, mais je vois pas l'intérêt en fait de recevoir des sous de la part de mes parents, alors que ce qui manquait, c'était de l'amour, c'était pas de l'argent. Et là, ils me disaient, enfin, ils essayaient de m'expliquer que c'était pas tellement l'aspect financier, c'était plutôt la reconnaissance de ce que j'avais vécu, étant donné que mes parents, même aujourd'hui, continue à penser que j'aurais pas eu besoin d'être opérée du cœur, que c'était moi qui ai convaincu les médecins que j'avais besoin d'être opérée, parce que oui. C'est tellement agréable, voyez-vous, de...
Ce qui est fou, c'est que votre père était... Ouais, ce qui est hallucinant, c'est que votre père était atteint du même mal que vous, et que malgré ça, ils étaient dans un déni total concernant votre maladie.
Oui, après, mon père n'a pas de malformation cardiaque,
oui.
Mais il n'a pas subi d'opération plus jeune, mais en fait c'est de la génétique, donc on sait qu'avec la même mutation génétique, il peut y avoir des interactions avec d'autres gènes et faire que la maladie en fait se présente différemment chez plusieurs individus alors qu'ils ont la même mutation. Par exemple, quelqu'un peut avoir la maladie sévèrement, quelqu'un d'autre peut avoir la maladie plus légèrement, et avec plus ou moins d'atteinte. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre que mon père, il a pourtant des symptômes hein, qui sont quand même marqués, mais qui sont quand même moins graves que ce que j'ai pu vivre moi et que ce que j'ai moi actuellement.
Plutôt que de vous soigner, vos parents vous disaient que vous étiez possédé par un démon et voulaient vous exorciser. Votre mère affirme aux parents de ses amis que vous êtes mythomane et dangereuse. Vous voyez, enfin, moi je pense que votre mère souffrait d'un problème psychique. Hein. Je pense que c'est elle qui aurait dû être soignée psychiquement. Elle avait sans doute reçu une éducation assez stricte et très religieuse, mais toutes ces réflexions vis-à-vis de vous laissent apparaître quand même un dérangement psychique. Avec du recul, qu'en pensez-vous?
J'en suis persuadée.
Oui, d'accord.
J'en suis persuadée, mais je n'ai pas les qualifications nécessaires pour poser un diagnostic. Et j'en suis persuadée. Enfin, je ne vois pas de... À part, je ne veux pas croire à de la méchanceté. Enfin, j'essaye et j'espère ne pas croire à de la méchanceté pure et dure. Je pense vraiment que c'était quelqu'un... avec une maladie psychique et qui était totalement perdue.
Permettez-moi de penser que lorsqu'on traite sa fille de vermine, il y a quand même un fond de méchanceté dans tout cela, même si tout cela est guidé par un psychisme défaillant. Il y a quand même chez votre mère quelque chose d'assez agressif vis-à-vis de vous. Et disait que vous étiez méchante et dangereuse. Voyez, c'était quand même en permanence des réflexions vous concernant très curieuses, je trouve. Enfin bon.
Oui, et surtout, tout était caché. C'est-à-dire qu'ils allaient appeler les parents de mes amis, j'allais pas en être informée, par exemple, pour leur prévenir qu'il fallait plus laisser leurs enfants jouer avec moi parce que j'étais malsaine. Juste pour citer un exemple. Ou ils avaient écrit au directeur du lycée pour lui dire que j'étais extrêmement dangereuse, alors que j'étais pas informée de ça. Enfin, voilà. Ouais.
Il y a dans tout cela, en plus, les prêtres qui refusent de vous exorciser. Hein. Y a quand même... C'est ça qui est fou, c'est que vous avez eu... Vous avez eu affaire à des gens qui étaient censés... finalement, ce sont les médecins qui font un signalement à la protection de l'enfance ?
Donc, pas exactement. Les médecins m'ont guidé vers le service un peu qui fait l'intermédiaire entre la protection des mineurs et le CHU. Et ensuite, dans ce service intermédiaire, ils m'ont proposé effectivement de me rendre à la protection des mineurs et de dire ce que je vivais, mais eux-mêmes n'ont fait aucune signalisation.
D'accord. Donc, vous êtes placée, en fait, Myriam, comment ça se passe ?
Donc, en fait, la protection des mineurs a convoqué plusieurs fois mes parents pour essayer d'avoir une première réconciliation, on va dire, à l'amiable. Et le fait que mes parents refusaient toute remise en question et niaient leur comportement, en fait, pour eux, leur comportement était tout à fait justifié, était pour mon bien. D'ailleurs, ça me fait penser au livre « C'est pour ton bien » ou quelque chose comme ça, qui a été écrit il y a quelques années. Mais du coup, là, c'est moi-même, en fait, qui ai été, après, appelée la police, car la protection des mineurs m'a dit « Si il continue à proférer des menaces, à te frapper ou à t'enfermer, tu appelles la police en urgence. » J'ai appelé la police une fois quand j'étais enfermée je crois que je m'étais enfermée moi-même dans les toilettes pour échapper aux coups de ma mère. J'avais pu m'enfuir ensuite par la fenêtre de ma chambre en pleurant et me cacher dans les arbres chez les voisins. La police était venue me chercher, m'a emmenée dans une famille d'accueil qui, à ma majorité, m'a ramenée chez mes parents sous prétexte que je n'étais pas assez mature.
Voilà. Il ne voulait plus vous nourrir, il ne voulait plus vous héberger à la fin. Il refusait que vous dormiez à la maison. Pour quelle raison se comportait-il comme ça ? Parce qu'il pensait que vous faisiez du cinéma, c'est ça ?
Oui, il me disait toujours que j'étais très bonne en théâtre, que par exemple les douleurs engendrées par ma maladie étaient imaginaires, que ma souffrance était imaginaire. Je venais parfois en pleurant vers eux pour leur dire que je ne me sentais pas bien. Et en fait, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Et ils disaient « Ah, mais t'es bonne en théâtre, t'es marrante ». Mais il partait vraiment en éclat de rire. J'avais aucune reconnaissance de la souffrance que je vivais.
La situation empire et vous allez devoir vous sauver de vous-même. Hein. À 17 ans, vous quittez votre foyer avec l'aide de la police et du service de protection des mineurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement ? Ça n'est plus tenable pour vous ?
Donc là, c'était déjà avant que j'arrive à la première famille d'accueil. Que je m'étais enfermée justement dans les toilettes pour échapper au coup de ma mère. Et quand la famille d'accueil m'a ramenée chez mes parents à ma majorité, je suis juste restée quelques heures la nuit. Je suis partie à l'aube avant que tout le monde se réveille. Je m'en souviens, j'étais en plein examen de baccalauréat à mon lycée. Et j'avais ensuite dormi. Ça a été en fait le début de ma vie un peu de bohème que j'ai vécue pendant un an. C'est-à-dire, je dormais chez les gens qui voulaient bien m'héberger. Et quand je ne trouvais personne pour m'héberger, bien, je dormais dehors. Et je vivais avec rien, en fait, réellement. Je vivais avec rien. Je voulais des rouleaux de papier toilette dans les toilettes publiques. Notamment, c'est horrible à dire, hein, mais pour utiliser comme serviette hygiénique, étant donné que je n'avais pas l'argent pour m'en acheter. Enfin, je mangeais presque rien. Je n'avais pas le droit à une prise en charge car le salaire de mes parents était trop important. Et au final, il y a eu l'aide sociale qui a menacé mes parents avec un qui a menacé à mes parents de les obliger en fait de subvenir à mes besoins. Et à ce moment-là, mes parents ont pris un avocat contre moi.
Ce qui est fou, c'est que malgré cela, vous dites que vous doutiez de votre légitimité. Qu'entendez-vous par là ?
Déjà, je me sentais un fardeau pour tout le monde. J'avais rien donné, j'étais tout le temps dans la demande et je me disais que j'avais même pas le droit de vivre ni d'être heureuse.
D'accord, carrément.
J'avais tout le temps l'impression de déranger, tout le temps.
Tout le temps.
Même chez les gens qui m'accueillaient, j'avais l'impression que j'étais en trou. Et dès que les gens parlaient, par exemple, sans que j'entende ce qu'ils disent...
Mais vous pensiez qu'ils parlaient de vous ?
Oui. Qu'ils allaient dire « Ah ben ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible. »
Comment imaginer le contraire, puisque vous étiez de toute façon mal aimée, hein, Myriam, en fait. C'est ça le problème, c'est que vous étiez mal aimée.
Oui, et j'étais à la merci de tout le monde. J'avais besoin de dormir et de nourriture. Et je me rappelle, par exemple, une fois, une famille m'a hébergée. Et le fils voulait me violer, pratiquement. Et j'avais dû m'enfuir. Je me rappelle, je n'avais pas réussi à dormir la nuit. Je m'étais enfuie dans l'autre chambre. J'étais repartie. J'avais pris mes affaires, j'étais repartie. Enfin, c'était très compliqué. J'étais à la merci de tout le monde. Je n'avais pas les bases pour savoir qu'en fait, j'ai de la valeur, qu'on doit me respecter, qu'il y a des choses où il faut que je dise non et que je ne suis pas d'accord. Je ne savais pas dire non, en fait. On m'avait tellement dit qu'il fallait que je me taise et que j'accepte tout ce que je vivais que je n'étais pas armée pour affronter la vie. Ça a été très dur.
Je me doute. Quelle horreur quand même de vivre une jeunesse pareille. Ça faisait de vous en fait une jeune fille assez fragile au final.
Totalement. J'aurais pu tomber vraiment sur des personnes malfaisantes. Voilà. Dans une mauvaise spirale. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça a été très difficile.
Vous subirez aussi deux opérations à cœur ouvert, encore aujourd'hui.
Je vous interromps.
Oui, allez-y.
J'ai subi une opération à cœur ouvert et la deuxième opération, donc c'était en urgence pour une tamponnade suite à un épanchement péricardique, mais elle n'était pas à cœur ouvert, la seconde opération.
Mais vous vous êtes reconstruite à partir de quand, donc, à votre avis, ça commence à partir du moment où vous avez tout quitté, que vous êtes partie de la Suisse?
Non, je pense pas qu'il y ait eu un moment fixé. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. D'abord par le sport. Donc quand j'ai pu commencer mes études à l'université, par la suite, donc mes parents avaient pris un avocat contre moi et il s'est avéré que et la protection des mineurs m'a également fourni un avocat. Et on a décidé que si je ne portais pas plainte pour demander des dommages et intérêts, mes parents acceptaient de financer mes études, comme l'exige la loi suisse jusqu'à mes 25 ans. Et grâce, durant mes études, en fait, j'ai rejoint une équipe de course à pied. Et le sport me faisait énormément de bien par ma maladie, me faisait énormément de bien par rapport à ma maladie. Ça me renforçait, ça diminuait mes douleurs. Et là, d'être dans cette équipe avec un entraîneur très bienveillant et d'être soutenue, c'est là, je pense, que j'ai commencé à me reconstruire. Et par la suite, bien sûr, par mes voyages.
Par vos voyages, parce que vous allez aller au Sri Lanka, hein, ce qui va vous faire énormément de bien, je crois.
Je suis partie, en fait, depuis la Suisse. Donc, j'ai démissionné, j'ai pris mon sac à dos. J'ai été donc en Suisse, on est enregistré dans les communes dans lesquelles on habite. J'ai annoncé comme nouvelle adresse aventurière. Je n'étais enregistrée dans plus aucun pays du monde et je suis partie depuis la Suisse. J'ai levé le pouce à travers 16 pays. Effectivement, je suis arrivée au Sri Lanka 5 mois plus tard.
Donc le séjour que vous faites au Sri Lanka vous a fait extrêmement de bien, je suppose.
Alors, c'est pas vraiment le Sri Lanka en lui-même, c'est plutôt ce que j'ai découvert sur la route. J'ai traversé l'Iran, le Pakistan, la Turquie, etc. Et c'est vraiment à travers toutes ces cultures au bord de la route que j'ai récupéré des petites perles de richesse qui m'ont guidée et qui m'ont appris quelle était la vie et quelle était la valeur de l'amour, même dans la pauvreté, même dans la difficulté. Et je me rendais compte que des familles extrêmement pauvres,
oui.
qui vivaient par exemple dans des décharges, je pense notamment aux intouchables par exemple en Inde, il y avait un amour entre la mère et les enfants que je n'avais pas vécu moi-même. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que ce que j'avais vécu était totalement déplacé. Et que j'ai eu un peu cette certitude que j'avais la légitimité de dire que j'avais été maltraitée et mal aimée. C'était toujours un peu un doute que j'avais eu. Je me disais, mais en fait, j'ai pas eu la mâchoire cassée. J'ai été battue, j'ai été enfermée, j'ai été privée de nourriture et de logement. Mais je me disais toujours, j'ai pas fini cassée en quatre à l'hôpital. Quelle est ma légitimité à dire que j'ai été maltraitée? Et là, de voir en fait le trou béant qu'il y avait entre le non-amour que moi j'avais reçu et tous ces gens, même pauvres, qui étaient tellement tendres les uns envers les autres et tellement respectueux, ça m'a fait vraiment un énorme choc. Et les philosophies que j'ai apprises au cours de ma route m'ont fait énormément de bien, surtout en Turquie, quand j'étais à Istanbul. Il y a un monsieur qui m'a dit, un poisson qui naît, qui vit, qui grandit et qui meurt,
oui.
dans un lac paisible où il y a de la nourriture en abondance, une famille aimante. Entre le moment où il est né et le moment où il est mort, il a certes vécu heureux, mais il n'a pas énormément évolué ni énormément appris. Alors qu'un poisson qui vit dans un océan infesté de requins, qui tous les jours doit devenir plus rapide, plus fort et plus intelligent pour survivre, entre le jour où il est né et le jour où il est mort, il a énormément appris, il a développé ses compétences. Et il me disait, au final, quel est le bien? Il me disait, les épreuves sont aussi à quelque part un cadeau, dans le sens où elles permettent d'évoluer. Alors bien sûr, il ne faut pas vivre ce que j'ai vécu pour être heureux et pour être débrouillé dans la vie. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte par la suite que j'avais réussi à transformer cette douleur que j'avais vécue en une force.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, je suis... ça a pris énormément de temps, mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit « Ah, t'es moche » ou « T'es nul » ou « T'es de la merde », je ne sais rien, ça ne me touche plus du tout.
Ça ne vous touche plus du tout, ça c'est super, c'est super.
Parce que j'ai appris ma valeur et mon droit en fait d'être sur Terre et mon droit de vivre et d'être heureuse. J'ai pas de doute à ce propos. Je me suis vraiment reconstruite.
Et qu'est-ce que vous faites en Corse aujourd'hui ?
Je travaille chez Gîtes de France. Donc, c'est de la réservation de gîtes et de chambres d'hôtes.
Oui.
Et surtout, je profite de la vie. J'ai mes amis, je fais de l'apnée. Il faut vous dire qu'avec ma maladie, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de ce que j'ai vécu, j'en sais rien. Mais j'ai réussi à... grâce au sport, à développer un peu une force physique que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir avec ma maladie. Savoir qu'il y a plusieurs personnes atteintes de ma maladie qui sont par exemple en chaise roulante. Et avec la musculation que j'ai réussi à avoir autour de mes articulations, à bien les protéger, etc. Maintenant, je fais de la boxe. J'ai été à Paris en février pour faire un tournoi international de boxe.
Mmh.
Ça, pour moi, c'était le Graal après mes opérations du cœur.
Ben oui,
c'est vrai qu'ici, je vis ma meilleure vie. Enfin.
Ben oui, vous avez su vous reconstruire, vous avez su faire face à l'adversité. On va prendre le temps de conclure. Vous restez avec moi et puis on se retrouve dans
oui,
quelques minutes. À tout de suite, Myriam.
À tout de suite.
Il est 23h passées de 6 minutes et si vous êtes... arrivé juste maintenant, eh bien, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21, vous le savez, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes contents et heureux de vous accompagner et nous sommes avec Myriam depuis le début de cette émission qui évoque sa jeunesse martyrisée par des parents maltraitants. Aujourd'hui, vous faites du kickboxing, hein, vous m'avez dit Myriam, et vos entraîneurs vous ont beaucoup apporté, je crois.
Oui, tout à fait. Mes entraîneurs, ils m'ont énormément apporté, bien sûr que ce soit d'un point de vue évolution physique, de l'endurance, de la force et de la technique, bien sûr. Mais surtout, le plus important pour moi, mes entraîneurs, ce sont surtout des guides de vie, un peu des coachs de vie, où par leurs conseils avisés, bienveillants et leur grande force, en fait, ils ont su toujours m'accompagner dans mes hauts et dans mes bas pour faire de moi un être humain, on va dire, épanoui, accompli, et surtout, ils m'ont donné une force mentale qui me permet de surmonter un bon nombre d'épreuves. Et ça, je leur dois en grande partie à eux, à leur investissement avec moi.
Quel sourire, quel sentiment vous nourrissez vis-à-vis de vos parents aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes apaisé ? Est-ce que la colère est-elle toujours là ? Comment vous sentez-vous par rapport à eux ?
Je pense que je suis triste par rapport à eux. Je suis déjà, je suis triste par rapport au fait, finalement, bien sûr, de jamais avoir connu cet amour et cette chaleur de la part de mes parents. Mais je suis triste aussi de les voir comme ça. Je me dis que pour ma part, le job entre guillemets a été fait et j'ai pu avancer dans la vie. Je me rends compte, je les ai revus au mois de janvier lors d'un repas familial. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas été réunis, la famille.
Vous êtes retourné quand même les voir ?
Donc c'était un repas, c'est tout.
Au restaurant. Mais à quelle occasion ?
Pour aucune occasion particulière, simplement mon frère habite à l'étranger, ma sœur également. Et cette fois-ci, on était donc mes deux frères, ma sœur, moi-même et mes parents en Suisse en même temps. Et c'est eux-mêmes qui m'ont demandé si je souhaitais manger au restaurant avec eux. J'ai hésité longuement et je me disais qu'au pire, ce serait au même point qu'avant et qu'au mieux... peut-être qu'il y aurait une petite lumière. Au final, le repas s'est très bien passé, mais bien sûr, ce n'est qu'un repas et ce n'est pas une relation. Et je n'ai pas repris de contact avec eux par la suite. Mais je pense que je suis vraiment triste aussi qu'eux-mêmes ne soient pas heureux, épanouis dans leur vie. Et que la relation en fait soit figée à ce point-là. Mais pour ma part, je vous le dis honnêtement, j'ai pas d'espoir que ça change.
Oui, j'allais vous demander qu'avez-vous senti lors de ce déjeuner, hein, que rien n'avait avancé, rien n'avait changé.
On n'a pas parlé de sujets délicats. On a parlé honnêtement de la pluie, du beau temps et de sujets peu profonds. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. Mais je sais vraiment que, par exemple, aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas mes opérations du cœur, ni ma maladie. Et ça, pour moi, c'est une preuve évidente qu'ils n'ont pas évolué. Et que, honnêtement, je pense pas que ça changera un jour. Moi, je suis apaisée par rapport à moi, sereine par rapport à moi-même, mais par rapport à la relation avec mes parents, je suis juste triste. Voilà, je trouve ça dommage que, déjà pour mon enfance qui a été vraiment sacrifiée pour leurs besoins à eux, leurs désirs à eux, leur confort à eux. Et je trouve ça, pour moi c'est une tragédie ce qui s'est passé entre nous et c'est un mot qui ne changera jamais.
Oui, ça ne changera jamais en fait.
J'ai plus ce manque. De leur amour, je ne le ressens plus.
Ah oui, mais l'avez-vous trouvé ailleurs, l'amour aussi ?
Oui. Oui, je l'ai trouvé ailleurs.
Ça aide, ça, aussi, beaucoup. Je pense dans le fait que vous ne vous trouviez pas légitime avant, c'est sans doute parce qu'il n'y avait que cet amour-là qui était apporté. Votre vie de jeune femme vous a apporté l'amour dans votre vie et donc vous a sans doute fait réaliser que l'amour était possible, hein, que c'était quelque chose de réel et qu'on pouvait vous aimer, qu'on pouvait s'occuper de vous, vous protéger.
Oui, et ça va vous paraître idiot entre guillemets à dire, mais c'est aussi l'amour de moi-même que j'ai trouvé.
Complètement. Mais ça ne me paraît pas du tout idiot.
Ouais.
Bien au contraire.
Alors bien sûr, l'amour de moi-même, j'ai aussi retrouvé parce que je voyais ce respect dans le regard des autres quand ils me parlaient, et ce respect, cette bienveillance, cet attachement. Mais l'amour, je l'ai aussi trouvé pour moi-même. Et de moi-même et pour moi-même. Et celui-là, c'était totalement banni dans mon enfance.
D'accord. Bah, écoutez, c'est fantastique de voir combien vous avez su tirer des enseignements de votre vie, de l'épreuve, hein, de l'adversité. Et puis, vous avez publié donc ce livre « Itinéraire d'une survivante » aux éditions Favre. Ce livre, vous l'avez publié en 2019. Et si vous voulez vous le procurer, il est toujours disponible, chers amis. Merci, Myriam, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bon vent à vous, là-bas, en Corse, chez nos amis corses, tellement plein d'hospitalité, ces Corses, en fait. J'adore la Corse, j'adore aller en Corse. Et on leur souhaite le bonjour, bien évidemment. Bon vent à vous, ma chère Myriam.
Avec plaisir, merci beaucoup, Olivier.
Bonsoir.